rapport à la troisième lettre aux églises. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, donc depuis le début de l'année, chaque mois, la coordination et l'édification de notre union d'église propose à toutes les églises de l'union un sujet de méditation, un sujet fondamental, on va dire, de notre foi. Donc vous rappelez peut-être en celui du mois de janvier, c'était le règne de Dieu. Celui de février, c'était la mission. Et là, c'est celui de mars. Alors, on a un mois de retard, un mois de décalage. Ce sont les alliances, ou la théologie de l'alliance. À chaque fois, donc, le sujet est accompagné d'un document qui résume le travail d'un théologien, de façon à alimenter notre réflexion. Alors là, cette fois-ci, c'est Gerk Kwaken, vous ne connaissez pas. Je dois avouer une chose, c'est que je ne suis pas certain d'avoir vraiment compris en profondeur ce que cet homme a dit de la théologie de l'Alliance, une théologie typiquement calviniste. Alors, ce n'est pas bien grave, parce que nous aurons l'occasion de partager sur ce sujet le mois prochain, je crois, par Zoom, avec Jean-Philippe Bru, hein, je crois que c'est
non, avec Daniel Bergès.
Avec Daniel Bergès, sur précisément la théologie de l'Alliance. Alors pour autant, donc moi je me suis un petit peu écarté de ce travail, mais j'ai été très intéressé par le sujet. Alors en ayant lu les textes qui ont rapport à l'Alliance, alors je vais vous servir un petit peu le produit de ce que le Seigneur, j'espère, m'a inspiré, et pas exactement le produit de ce travail. Alors, on peut lire, j'ai prévu trois textes. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 9. Genèse 15, verset 9. Oui, c'est dans deux morceaux maintenant. On sautera un petit morceau. Voilà. Alors, le Seigneur dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham, appelé encore Abraham, les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Et un peu plus loin, je passe au verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. » Alors nous lirons ensuite dans le livre de l'Exode, un texte un petit peu plus long, chapitre 24, les versets 1 à 8. Exode 24, 1 à 8. Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et puis nous passons dans le Nouveau Testament, le troisième texte, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Voilà ce que dit Paul aux Éphésiens. « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est-à-dire des circoncis et incirconcis, hein, pour comprendre. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, alors on a lu des textes qui sont tous en rapport avec l'alliance, des alliances de Dieu avec les hommes. On en connaît pas mal, des alliances. Dans l'Ancien Testament, une des toutes premières, c'est celle de Dieu avec Noé. Noé fait une alliance, donc à l'issue du déluge, une alliance avec Noé. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que il fait l'alliance avec un homme. Mais en réalité, c'est toute l'humanité qui va être concernée au bénéfice de cette alliance, puisque ce jour-là, Dieu promet, avec un signe dans le ciel, qui est l'arc-en-ciel, Dieu promet de ne plus jamais procéder à la destruction totale, quasi-totale, de l'humanité. Donc c'est déjà intéressant de voir qu'il y a bien sûr un homme au centre, c'est Noé, mais tous les hommes sont concernés. Et puis il y a aussi une promesse, n'est-ce pas? Alors, nous avons lu l'alliance avec Abraham, enfin un extrait, parce qu'elle est en plusieurs parties, cette alliance, a renouvelé d'ailleurs à plusieurs reprises. Avec Abraham, on retrouve un peu les mêmes ingrédients. C'est un homme choisi par Dieu, lui tout seul, mais toute l'humanité va être concernée par cette alliance avec Abraham. Rappelez-vous ce que Dieu dit, en toi, toutes les nations seront bénies. Et alors que dire des promesses de Dieu? Là aussi, on retrouve quelque chose d'extraordinaire pour Abraham, promesse donc de lui donner un pays pour lui, pour sa descendance, et puis surtout, enfin, également, de lui donner une descendance nombreuse. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Et puis, on peut remarquer d'ailleurs que ça tardait, puisque Abraham ne va pas réellement, lui, profiter de ce pays et de sa descendance, il en verra. C'est son fils Isaac, hein, donc, mais voilà, l'espérance est donnée à Abraham au travers de cette alliance. On pourrait citer tout plein d'autres, hein, vous ne pouvez pas lire tous les textes qui concernent une alliance dans la Bible. Il y a l'alliance avec plus tard avec David, etc. Alors, il y a quand même une alliance qui est dans l'Ancien Testament qui est assez phénoménale, c'est évidemment l'alliance au Sinaï. Dieu a fait sortir son peuple donc, de l'esclavage en Égypte. Ils arrivent au Sinaï et là, Dieu va proposer cette alliance. Une fois de plus, au travers d'un homme, en l'occurrence Moïse, n'est-ce pas? Mais on comprend bien que ce n'est pas seulement pour Moïse l'alliance, bien sûr que c'est pour tout le peuple d'Israël, donc pour un peuple déjà nombreux, avec également des promesses. On retrouve toujours les mêmes ingrédients, hein, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Les mêmes promesses, enfin des promesses également, promesses d'arriver dans la terre promise, qui a été promise à Abraham. Vous voyez que Dieu a de la suite dans les idées, parce qu'il y a quand même pas loin de 500 ans entre Abraham et Moïse, n'est-ce pas, avec toutes sortes de bénédictions en perspective. Voilà. Ensuite, effectivement, d'autres alliances. Je vous parlais de David. Alors, c'est pareil, hein, l'alliance avec David. Ta royauté sera affermie, ton trône sera affermi pour l'éternité. C'est-à-dire que David, lui, il a compris une chose, et il a très bien compris, c'est que sa descendance régnerait à jamais sur le trône d'Israël. Alors, bien sûr, nous, on sait que c'est par l'intermédiaire de Jésus, qui est descendant en tant qu'homme descendant de David. Alors, vous voyez beaucoup de promesses que Dieu tient, et on a le sentiment que, précisément, l'alliance est là pour manifester que Dieu va tenir sa promesse. Que Dieu est fidèle, et que même si c'est parfois très long terme, eh bien, les promesses de Dieu aboutissent systématiquement. Alors, avant d'aller plus loin, vous voyez, on fait chronologiquement, on étudie toutes sortes d'alliances, on va arriver, bien sûr, en tournant les pages de notre livre, on va arriver au Nouveau Testament. Mais avant, penchons-nous un petit peu sur la nature de ces alliances. Qu'est-ce que c'est exactement ? On peut avoir l'impression que, bon, on a bien compris, mais c'est quand même assez subtil. Et avant de dire d'ailleurs que sont ces alliances, je crois intéressant de se demander qu'est-ce qu'elles ne sont pas. Parce qu'on pourrait être tenté, et c'était mon état d'esprit au début de cette réflexion, on pourrait être tenté de voir dans l'alliance que Dieu conclut avec les hommes une sorte de contrat. Vous savez tous ce que c'est qu'un contrat. Des contrats, on en établit, j'allais dire, tous les jours. Parce que bien sûr, on peut conclure un contrat avec, par exemple, un constructeur de maison. On fait un papier, un document, comme quoi le constructeur, alors, qu'est-ce que c'est le contrat ? Ben, c'est deux parties qui s'accordent, se mettent d'accord pour un résultat final. Une partie, alors le constructeur de la maison, lui, s'engage à fournir une maison dans un certain délai, avec certains équipements, de telle surface, avec de tels matériaux, etc. Et en contrepartie, eh bien celui qui a commandé la maison, lui, il s'engage à en payer le prix convenu, n'est-ce pas ? Mais il y a des contrats beaucoup plus simples. Quand vous allez chercher votre pain le matin, bien sûr que vous n'allez pas signer un contrat, mais c'est même tacite, hein, il n'est pas ni écrit, ni même oral, mais il y a un contrat. Le boulanger, lui, s'engage à vous fournir un pain de qualité, de tel poids, avec tel céréale, etc. Et puis vous vous engagez, on vous le donne, à en payer le prix. Il y a un contrat. En termes juridiques, on appelle ça un contrat synalagmatique. Dans un dîner, vous les brillez, vous voyez. Oui, le contrat, alors, c'est presque un pléonasme, parce que synalagmatique, ça signifie, ça se dit d'un contrat où les deux parties s'engagent à quelque chose, ben, sinon ce n'est pas un contrat. Hein. Bon, voilà, vous aurez appris le contrat synalagmatique, en termes juridiques, ça va. Voilà. Oui, c'est donnant-donnant. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prend l'alliance de Dieu, que Dieu propose aux hommes, comme un contrat, il y a quelque chose qui ne cadre pas. Parce que donnant-donnant, ça pourrait dire. Prenons par exemple l'exemple du peuple au Sinaï. Si c'était un contrat que Dieu passe avec son peuple, ça voudrait dire donc que d'une part, le peuple lui s'engage à obéir, à n'adorer que ce Dieu. Il le fait, hein, il le fait. Il le dit. Il s'engage à servir ce Dieu-là, à chasser tous les autres dieux, à obéir à sa voix, etc. Et en contrepartie, Dieu, lui, s'engage à les amener dans la terre promise, à les protéger des ennemis qui étaient nombreux à l'époque, hein, dans ces contrées-là. Donnant, donnant. Je fais ma part, tu fais la tienne. Et j'ai trouvé que ça ne cadrait pas avec l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc pour moi, l'alliance, c'est certainement autre chose qu'un contrat que Dieu passe avec les hommes. Euh, Alors, bon, ben, si on a vu ce que c'était pas, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'alliance, il faut la voir plutôt comme un plan que Dieu imagine pour les hommes, pour l'homme. Un plan. Un plan pour lui, un plan parfait pour l'homme. Un plan de bonheur, un plan de réussite, un plan d'amour. Il ne demande pas son avis à l'homme, il l'élabore, ce plan, un plan de vie, et le propose à l'homme. Et il ne reste plus qu'une chose à faire pour l'homme, c'est entrer dans ce plan. Vous voyez toute la différence. Ce n'est pas donnant, tiens, signe là, moi je signe à côté. C'est une invitation. Dieu invite l'homme à entrer dans le plan qu'il a prévu pour lui. Alors, avec cette définition de l'alliance, continuons notre exploration. Alors, on arrive au Nouveau Testament. Il y a peut-être aussi une alliance, alors cette fois-ci avec une femme, avec Marie. Dieu propose une alliance. Bien, regardez, il y a tous les ingrédients, une fois de plus. Il y a la promesse. Ton fils sera, etc., le roi d'une grande nation. Bon, mais arrivons-en tout de suite à l'alliance des alliances en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'il faut faire un dessin? Bien sûr que là, nous avons une alliance qui, va supplanter toutes les autres alliances. Celles du passé, elles sont désormais périmées, ça ne veut pas dire que Dieu renie ses alliances, jamais. Parce que Dieu ne rompt jamais une alliance, mais elle en est l'aboutissement. Et également une alliance en Jésus-Christ qui va être définitive, c'est-à-dire pour tout le reste, pour toute l'éternité et pour tous les hommes, de toutes les nations. Et on retrouve toujours les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une alliance qui est au profit, alors cette fois-ci vraiment de tous les hommes, de toute l'humanité, du passé, du futur, de toute la terre, à travers un seul homme, qui s'appelle Jésus. Les promesses. Que dire des promesses? Immenses promesses. Vie éternelle, royaume des cieux, etc. Pardon. Le pardon des péchés, la grâce, etc. Voilà. Donc, voilà une alliance parfaite, universelle, splendide, inespérée pour les hommes. Cette alliance, elle est parfois... elle est comparée dans l'Évangile, peut-être aussi dans les Épîtres, et peut-être également dans l'Apocalypse, il me semble, à un mariage. Donc dans l'Évangile, c'est notamment par les paraboles de Jésus. C'est très intéressant de... Alors, je me suis dit, oh là, mais je suis en train de m'enfoncer, là, parce qu'il y a bien des contrats de mariage. On retombe dans le problème du contrat, donnant. Ben oui, il y a des contrats de mariage, ça existe. Moi, je n'en ai pas fait, contrat de mariage, on n'en a pas fait. Mais, alors, là, il faut dire qu'évidemment, la République, quand elle procède à une cérémonie de mariage à la mairie, elle ne s'intéresse pas à l'amour. Donc, on fiche que les époux s'aiment ou pas, quel intérêt. Le maire, monsieur le maire, lui, rappelle, même s'il n'y a pas de contrat de mariage, il rappelle les devoirs entre époux, les devoirs de solidarité, etc., etc. On est sur un plan légal. Alors vous voyez bien que, bon, alors, la comparaison s'arrête là. Hein. Le mariage, eh bien, c'est d'abord, parce que là, pour le contrat de mariage, c'est un petit peu éloigné de notre vision romantique du mariage. Alors, le mariage, c'est d'abord, bien sûr, l'amour entre deux êtres qui décident d'unir leur vie. Et c'est vrai que l'image est très forte pour ce qui est de l'alliance. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, Jésus est l'époux et son épouse, c'est l'Église. Et l'image est magnifique parce que, effectivement, si c'était un contrat de mariage, eh bien, il y aurait toujours cet esprit de défiance. Parce que, moi, ça me semble curieux, mais les contrats de mariage. Il y avait un petit peu l'esprit de défiance, c'est-à-dire que si jamais le mariage ne marche pas, qu'il y ait un divorce, bon, ben moi je reprends mes billes, la maison elle est à moi, la voiture elle est à toi, enfin je sais pas quoi, tout défini par contrat. C'est un petit peu tristou. Donc, une fois de plus, je suis conforté dans cette idée que l'alliance de Dieu avec les hommes, et surtout l'alliance de Dieu avec les hommes en Jésus-Christ, est tout ce que vous voulez sauf un contrat. Et d'ailleurs, tiens, au fait, quand on parle d'alliance, ben voilà, c'est ce qu'on met autour du doigt, bon, bien sûr, plaisanterie, mais ce petit anneau d'or que les époux s'échangent au moment du mariage et qui se mettent au doigt l'un de l'autre, eh bien, bien sûr, c'est pas pour la valeur de l'or, etc. C'est pour le symbole qui représente, effectivement, l'alliance, elle est symbolisée par ce petit anneau et qu'on appelle une alliance. Alors, voilà, voilà la réflexion qui m'amène à vous dire ce n'est pas l'alliance de Dieu et ce que c'est, à mon sens. Qu'est-ce qu'il nous reste à méditer ? Il nous reste à réfléchir sur notre attitude, notre réponse face à cette proposition d'alliance. Et là, je crois qu'il nous faut être très attentif parce que les choses ne coulent pas de source. Parce que précisément, lorsque nous sommes face à l'alliance, qui, je vous le rappelle, est une proposition de Dieu, qui nous dit, mais mon enfant, voilà l'alliance que je te propose, entre dans cette alliance, entre dans mon invitation, entre dans mon amour, entre dans la grâce que je t'offre. Je pense que le problème que nous avons, que beaucoup de chrétiens ont, et que peut-être nous avons nous aussi ici présents, trop facilement, c'est d'immédiatement transformer cette invitation en contrat. Ok Seigneur, je vais lire ta parole tous les jours, je vais aller au culte tous les dimanches, je vais te servir, je vais même essayer de me lancer dans l'évangélisation, parce que tu me l'as demandé. Je vais chercher à t'aimer de tout mon être, de toute ma force, de toute ma pensée. Je m'engage. Mais alors toi, en contrepartie, j'attends de toi la santé, la réussite. Tu vois, j'ai ce problème, hein, tu ferais bien de jeter un coup d'œil, d'essayer de régler ce problème dans ma vie. Vous voyez tout de suite, le petit calcul. Mais le Seigneur, il ne nous a pas proposé ça. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous dit, il est clair, il nous dit, attends, les maladies, t'en auras autant que les autres. Des deuils, ça t'arrivera aussi. Des échecs, des difficultés, des moments de tristesse, t'en auras. T'attends pas à... En revanche, moi, ce que je te propose, c'est une joie qui va aller surpasser toutes ces choses-là. Avec le Seigneur, c'est malgré tout ce qui peut t'arriver sur terre pendant ta vie, eh bien, tu vas pouvoir découvrir une joie immense. Pour combien de temps ? L'éternité, excusez du peu. Voilà l'alliance. Vous voyez que si on peut arriver en nous à chasser cette notion de contrat, avec petit calcul avec Dieu, donnant, je te donne là, mais il faut que tu me donnes aussi. Voilà le message. Il y avait d'une part, vous voyez, la compréhension théologique. Alors il y a bien d'autres choses à dire, hein, sur la théologie de l'alliance, et encore une fois, je vous avoue que je ne me suis pas senti capable de rentrer dans cette réflexion très... Vous verrez ça, hein, mais par contre, j'ai ressenti profondément en moi la nécessité de me repencher sur mon attitude toutes les fois où je sens que le Seigneur me rappelle qu'il me propose son alliance. Attention, ma vie de nature, elle est là. C'est, ah oui Seigneur, au fait, j'ai un petit souci d'argent, là, tu peux faire quelque chose, et puis... mon enfant est malade, là, si tu pouvais... Stop. Bien sûr qu'on peut prier. Bien sûr qu'on peut prier pour tous les problèmes. Mais ce n'est pas donnant. Ne nous situons pas dans la perspective d'un contrat avec le Seigneur. Jésus, lui, et ce sera le mot de la fin, Jésus, lui, il nous dit, je suis à la porte et je frappe. Vous connaissez cette parole, hein, de Jésus. Je suis à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix Qu'est-ce que dit cette voix? C'est l'invitation. Entre, viens, entre dans mon alliance. Rejoins-moi dans l'alliance que je te propose. Eh bien oui, si vous entendez ma voix, vous lui ouvrez la porte, il entrera chez vous et il dînera avec vous. Amen.